Oui.
Oui, oui.
A parte il fatto che bisogna vedere quando scade questi portodarmi. Comunque.
Tra le strade saracene, mille chiese ad altri tempi, ci si incontra tanta gente, brutta vivere per niente.
Dis-moi. Par où dire?
Train to Buffalo, New York.
135, it's all the way back 42.
42?
How do you go there?
C'est un art.
Pas très bien, c'est la même époque, la différence qu'il y a entre un samouraï et la Rochefoucauld, c'est un peu le même genre de course perdue.
Pascal Quignard nous offre ses heures heureuses. Fragments, essais, bouts d'autobiographie, monde grec et latin, érudition, éclat, attaque comme en musique, et la mer par en dessous comme une promesse. L'amitié et l'amour sont là, on marche, on nage. La Rochefoucauld apparaît dans un dernier tourment, dans une dernière sentence. Conversation avec un homme rare qui souvent esquive et est pleinement là quand il l'a bien voulu. Pascal Quignard. Dans ce livre où je veux quitter la terre, il me faut recueillir ses ultimes vestiges, les chiffres et les dates, les heures qui les assemblent. Qu'est-ce qu'une date ? Une date est l'unité minimale de l'histoire, l'instant où le récit commence, ce que fut la donnée au moment de la sortie du corps dans l'espace externe.
Je me souviens très très bien, c'est ça qui est curieux, je me souviens très très bien, mais je ne me souviens plus de la date. Bon, allez.
Mais parlons des dates. On va commencer par là, parce que les dates, il y en a plein dans vos livres, dans celui-ci aussi, mais dans d'autres aussi. Et pourtant, on a le sentiment que le temps chez vous, il peut aller dans tous les sens, qu'il y a une distorsion temporelle.
Tout à fait. Les dates, c'est une ruse que j'ai empruntée aux Chinois. Et dans les récits chinois, il y a toujours des dates extrêmement précises, mais elles ne sont pas là pour pouvoir marquer quelque chose dans le temps. Elles ne sont pas là de façon historique. Les dates sont là pour marquer, comment dire, que ça a été contingent, ça a été fortuit. C'est arrivé une fois dans l'histoire du monde qu'il y a eu cette guerre, qu'il y a eu cette saison, qu'il y a eu cet amour, qu'il y a eu... Et donc l'usage des dates, si vous laissez la phrase, comment dire, sans date, elle paraît un peu prétentieuse et, comment dire, générale, universelle. Et il y a quelque chose d'extrêmement... bouddhiste même un tout petit peu, dans le fait de fixer comme ça des petites pointes dans le temps, comme si ça n'était rien. Voilà.
Ça me fait penser au passage sur Eugène Boudin.
Alors lui...
Ça c'est magnifique. Ouais. Il y a une partie des dates, mais pas la date.
C'est ça.
Ça vous plairait ça, de pouvoir échapper au temps de cette manière ?
Non, mais vous savez, j'échappe au temps. Et vous aussi, et nos vies y échappent. Il y a cette... Je vais revenir sur Eugène Boudin, mais il y a cette dimension magiquement d'ailleurs souligné, rarement mais souligné par Freud, qui disait le fait, comment dire, que chaque jour, vous, moi, nous sommes plongés dans une nuit immense, dans le sommeil, qui abat tout le monde sur Terre, et qui nous replonge en quelque chose qui est même l'origine, le fond, l'origine, le trou noir même de l'origine du monde, et qui fait que nous sommes, comment dire, à chaque réveil, aussi naissant que n'importe quel naissant. Donc on est dans quelque chose qui est sans date. Et c'est la même chose aussi pour le désir, ou pour l'amour, ou pour le rêve, bien sûr, dont on dit bien sûr qu'il ne connaît pas le temps. Et c'est vrai qu'il ne connaît pas le temps.
Comme l'inconscient.
Alors sur Eugène Boudin, c'était très curieux. Il marquait d'abord la force au bas de la toile qu'il faisait, de l'aquarelle qu'il faisait, au bas des Tretas, au bas de Honfleur, au bas d'une plage normande. Il marquait la force du vent. Il marquait l'heure du jour, il marquait peut-être le mois, ça je ne sais plus très bien, mais il ne marquait jamais l'année. Ce qui est curieux, je ne sais pas quelle est la raison, ça, vous savez, on est tous un peu fous, mais c'est très émouvant de marquer, comment dire, c'est très proche de ce que je vous disais sur le monde chinois, de marquer la contingence. Ça a été là une fois, ça suffit.
Et l'écriture, c'est revivre à nouveau? Est-ce que pour qu'il y ait deux fois, il faut écrire?
C'est plus difficile là comme question. Est-ce qu'il faut qu'il y ait deux fois? Peut-être qu'il faut retraduire pour pouvoir. Oui, peut-être. La première fois, enfin pour des gens très névrosés comme je le suis, la première fois peut-être douloureuse, la première fois peut-être pas pleine, pas entière. Et récapituler, j'ai besoin en effet de récapituler chaque jour, chaque matin, ma vie sans doute. C'est aussi, comment dire, ce que fait la mémoire spontanément. C'est aussi ce que fait le rêve spontanément aussi, qui revisite la veille les moments qui lui ont été difficiles. C'est aussi ce que fait la psychanalyse, qui aussi revisite et essaie de traduire ce qui a été trop douloureux. Et c'est vrai qu'il faut peut-être une seconde fois pour renaître un peu plus heureux, pour renaître un peu plus vivant que la première fois où on a parfois raté des choses, ou souffert trop, ou été trop soumis aux choses. Je ne sais pas comment dire.
Vous évoquez la psychanalyse et beaucoup d'analystes se réfèrent à vous. J'étais très proche d'Alain Didier Weil et puis pour lui, la sonate maternelle, c'était une découverte. Quelle est votre proximité à vous avec la psychanalyse ?
Vous me voyez maintenant parler plus souvent de la psychanalyse qu'avant. Avant, je ne pensais pas qu'elle avait aucunement besoin de moi. Mais dans la mesure où des mouvements un peu, comment dire, discutables, cognitifs, comment dire, un peu américains, un peu thérapeutiques, douces ou dures, d'ailleurs, se sont mis à l'effacer, je trouve que cette chose qui n'aura duré peut-être qu'un siècle, comme elle m'a sauvé la vie, je veux en témoigner. Vous comprenez, c'est une sorte de témoignage. Si elle n'avait pas besoin de moi, je me tairais. Mais je pense qu'elle m'a sauvé la vie, oui. Donc, dans ce cas-là, je dis oui, j'ai été psychanalysé pendant 8 ans. Et de ce que j'étais, du suicidaire et du mourant un peu, et du goût de la mort que j'avais, j'ai maintenant, comment dire, un intense bonheur. Et même, ça va jusqu'au un intense chagrin à l'idée de mourir un jour.
Ce ne sont pas les arts qui comptent, c'est l'abandon aux forces qui font le fond du monde, aux poussées qui précèdent même la vie. La mer précède la vie. Et dans les psychanalystes, vous parlez de Ferenczi qui vous touche beaucoup, qui a eu de la difficulté à publier, à écrire, à faire connaître son œuvre. Il avait beaucoup de réticence par rapport à ça. Et en français, son œuvre est traduite par Thalassa.
Oui. Même en français, vous savez, je crois, j'ai lu que Thalassa avait été refusé par les éditions Payot. Non, par l'édition du Presse universitaire de France. Et ça a été pris ensuite par Payot. Et c'était traduit par la Nièce, je crois. Enfin, c'est assez compliqué. Je ne sais pas très bien. Il s'est passé quelque chose, alors que c'était le meilleur ami de Freud et son disciple. Ils se sont plus ou moins chamaillés affectivement. Sans. Il y a eu quelque chose de... La fin de la vie de Ferenczi a été, comment dire... Il est tombé malade et comme c'est arrivé au moment où Freud a eu son cancer de la mâchoire, Freud a cru qu'il voulait rivaliser avec sa propre mort, sa propre maladie. Vous savez, on devient un petit peu fou avec la maladie. Et les deux sont devenus un peu fous et ça a été un des grands regrets. Vous me direz, on s'en fiche des regrets des gens après qu'ils sont morts. Mais ça a été un des grands, c'était le seul regret de Freud, de s'être mal conduit par rapport à son ami. Parce que c'était des vrais amis, c'est quand même curieux. Freud avait une femme, une belle-sœur, des enfants. Ferenczi avait deux amoureuses, c'est une sombre histoire. Mais ils partaient en vacances ensemble, tous les deux, à l'hôtel. Ils allaient aux champignons, ils aimaient beaucoup marcher, aller aux champignons. Ils l'ont fait jusqu'à la guerre de 14, où Freud est allé quand même en Hongrie une fois, rejoindre le docteur Ferenczi qui est sous l'uniforme militaire hongrois. Non, je vous embête avec ces histoires-là. Ils allaient donc aux champignons. C'est ce qui m'amuse, ce qui me plaît, parce que c'est vraiment un signe de confort. Ferenczi prenait une chambre à l'hôtel. Freud en prenait deux. Parce que Freud en prenait une pour dormir et une pour fumer le cigare et écrire. Il ne voulait pas dormir dans la fumée de son cigare. Ça, c'est le grand luxe. Mais alors, donc, maintenant, je vous parle sur le fond de Ferenczi, ce qui me touche énormément, cette œuvre-là. C'est sa timidité, puisqu'il peinait à écrire, mais son audace en même temps. Freud a fait, par rapport à l'histoire individuelle, à la morphogenèse, à l'embryogenèse, par rapport à ce que nous sommes dans le ventre de nos mères, à ce que nous sommes ensuite en naissant, à tous les stades et toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, une magnifique méditation qui est son œuvre, qui est splendide. Mais qui est très très neuve. Mais Ferenczi, c'est le contraire. Il a voulu plonger le tout dans l'histoire de l'univers. Et ça, c'est une chose qui me passionne et que j'aime faire aussi. Plonger, comment dire, l'ontogenèse, comme on dit, dans la phylogenèse. Plonger, comment dire, dans l'histoire de la nature, dans l'histoire de la vie, dans l'histoire de l'univers, dans l'explosion même originaire. Et ce que nous appelons Thalassa, lui, il l'appelait catastrophe. C'est très curieux, ça. C'est, je ne sais pas d'où vient ce mot magnifique, ce titre magnifique de Thalassa.
Thalassa, la mer, elle est très très présente dans votre livre et vous avez des nageuses qui sont près de vous. Quelle est votre position? Vous les regardez nager? Vous avez peur pour elles?
J'aurais peur pour moi d'aller dans... J'ai peur pour elles, mais j'aurais peur pour moi aussi. Je ne sais pas, et peut-être que écrire à cette déficience-là, je suis quelqu'un du bord de l'eau. Je suis quelqu'un de la rive, je suis quelqu'un, comment dire, de la rive du jour, du matin, très tôt. L'océan, j'en ai besoin, j'ai besoin de son bruit, j'ai besoin de son immensité, j'ai besoin de cette masse absolument bruyante, informe, presque prévivante, même si elle n'est pas vivante. Comme la nuit, que j'aime énormément, que j'aime beaucoup le noir aussi, mais c'est la même chose, je reste à la lisière, de cette manière. Et quand je voyais mon amie qui, elle, plongeait dans l'océan, c'est une amie qui était écrivain, qui est morte trop tôt, qui s'appelait Emmanuelle Bernheim, elle avait besoin 3 ou 4 fois par jour, tellement l'angoisse était forte, d'épuiser son angoisse dans la nage, vous voyez, c'était curatif pour elle, c'était... Et je la voyais une heure et quart passer, traversant la baie de Saint-Florent. En ce moment, en plus, il y a des tempêtes maintenant, en Bretagne. Mais elle aurait foncé, elle n'avait pas un jour, elle n'aurait pas raté la tempête non plus.
Le dernier mot qu'Emmanuel m'ait dit dans la chambre à l'hôpital, alors que j'évoquais nos marches interminables sur la côte corse, ayant pris ma main soudain, « Ah ça oui, je regretterai !» Cette phrase était si fervente, si étrange, comme si elle allait entrer dans un monde où le regret existerait. Alors qu'elle avait programmé sa mort chimique, son autodestruction, comme elle l'avait fait pour son père, il y aurait eu néanmoins une terre des regrets, un ciel des amertumes. Une mère des soupirs. J'étais trop émue. J'ai dû être cerf ou être lièvre jadis. J'ai toujours su fuir à toute allure. Je me penchai. Je pris dans les mains sa jambe. J'embrassai son genou nu qui sortait du drap. et je quittai la chambre en hâte. Je la laissai à une cérémonie interminable. La chimie l'avait alanguie, l'avait presque exemptée d'elle-même. Les soins dont elle était entourée étaient assidus et irréprochables. La foule des connaissances appelées à son chevet la protégeait si mal de la mort, mais fatiguait les heures. Les infusions et les substances qui allégeaient ses souffrances lui avaient ôté la faculté de les organiser. Arrachée à elle-même, elle y était comme asservie. Il se trouvait qu'à mes yeux, désencolérée, elle était comme disparue. Nageait-elle bien ? Non. Elle nageait avec vigueur, avec puissance, avec hargne. Elle nageait avec la détresse de l'origine.
Vous comprenez, ce qui m'a animé, c'est le fait, c'est ça, vous parliez des dates tout à l'heure, c'est les heures, elle regardait les heures des marées, la météorologie, il y a là une sorte d'actualité. Dans le tour du monde, on vit dans un monde qui est très dur, de guerre extrêmement épouvantable, particulièrement aujourd'hui, en ce moment. Et vous allez dire que je saute du coq à l'âne, mais mon esprit est fait ainsi. Mais je pense à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, un ami qui s'appelait Robert Antelme, et qui avait connu les camps, et qui avait écrit un livre très beau, Sortir des camps, sur les camps eux-mêmes. Et il disait une chose, alors que les avions, comment dire, américains, ne lançaient pas de bombes sur les camps, ne libéraient pas, tout le monde était au courant, bien sûr, alors que les avions anglais ne lançaient pas de tracts pour soulager un peu ou un petit peu de nourriture, comment dire, sur les camps, eh bien, il n'y a qu'une chose qui était fidèle, disait-il. Il n'y a qu'une chose qui donnait un petit peu bonheur au malheur pur, au malheur total des prisonniers, des internés, c'était la rotation du temps, c'était que le temps lui était fidèle, que le printemps revenait, qu'il y avait quelque chose de l'ordre quand même du retour, qu'il y a quelque chose qui pouvait être respiré dans l'espace du ciel et qui faisait le tour. Voilà le fond de ce livre, c'est ça.
Mon oncle, si maigre, si beau comme un ange d'annonciation, qui se reposait dans le fauteuil crapaud à l'angle du piano droit, et rare, blond, de ma grand-mère, qui tétait avec tant de plaisir le bout de sa cigarette retrouvée, les yeux si bleus, les lunettes de fer si rondes. Mon jeune oncle qui dévorait tout le jour, qui ne cessait de sortir des poches de son veston des rouleaux de zan avec une perle au milieu, des chewing-gums roses enveloppés dans des photos de footballeurs, des boules de gomme, des bois de réglisse pleins de poussière jaune, des gauloises bleues, des petites boîtes d'allumettes italiennes cartonnées dont j'avais le droit d'arracher le lambeau et de l'allumer en le frottant très fort avec le gras du doigt. J'apportais la flamme au bord de ses lèvres. Quand les déportés rentrèrent des camps, rentrèrent-ils? D'où venaient-ils? Où allaient-ils? Dans quelle époque vivaient-ils? Vivaient-ils encore vraiment? On les regardait. Quand on les regardait, on souffrait de les voir. C'était du temps ineffaçable qu'on avait sous les yeux et qui avait certainement quelque chose de la mort, mais il vivait. Du moins vivait-il un peu encore. On ne pouvait manquer de leur reprocher d'avoir souffert ce qu'ils avaient souffert sans mourir. Eux-mêmes se le reprochaient au regard de tous ceux qu'ils avaient laissés dans l'autre monde. On leur faisait reproche d'être restés en vie, pareil à des souvenirs inassimilables de ce qu'on aurait préféré omettre de l'histoire. Les Ikabouchas, les pestiférés. Leur présence, cette incarnation qui se voit dans la peinture de Rustin où je retrouvais soudain mon oncle Jean, tentant de renaître, faisant effort si difficilement, si longtemps pour renaître, quand il revint du camp de Dachau, silencieux, sous le lampadaire, sous les franges, ou plutôt les torsades tricolores, à l'angle du piano. Tout commence pour vous avec le livre d'heures du duc de Berry. C'est une découverte terrible que vous faites là.
Quand j'étais petit, ouais. Une pas terrible, enchanteresse.
Terrible au sens où elle va vous poursuivre et être là, ouais.
Elle ne me lâchera pas. J'étais comme tous les petits enfants, comment dire, très curieux de ce qui pouvait être sexuel, ou ce qui pouvait être la nudité. Les tout petits enfants sont. Et dans le bas de l'armoire de ma grand-mère, il y avait les babars, parce que ma grand-mère était liée au Thierry Brunhoff et aux auteurs de babars. Il y avait la comtesse de Ségur, bien sûr. Et puis il y avait un petit livre cartonné, jaunasse, où les images étaient encollées simplement dessus. Vous savez comment on faisait autrefois, on ne savait pas du tout des images numérisées qui sont magnifiques de nos jours. C'était beaucoup plus humble à l'époque, c'était collé comme ça, image par image sur une page. C'était les heures du duc de Berry où on voyait, comment dire, devant le château de Chantilly, les moissonneurs, la tunique retroussée en train de faucher les champs. On voyait les baigneurs dans l'eau de la Seine. On voyait l'hiver, près du feu de bois, auprès d'un chat, auprès d'un homme qui portait un fagot. On voyait une femme et un homme, la tunique retroussée, qui réchauffaient leur sexe comme ça, auprès de l'âtre. Et alors, je regardais ça avec une fascination, une sidération absolue. Et j'étais, bien sûr, on voyait aussi l'enfer avec ses corps qui tombent à l'envers dans les flammes. Enfin, bref, j'étais très, très fasciné par ces scènes primitives que ces livres d'heures absolument somptueuses ont offert aux livres avant qu'ils soient imprimés.
Il était là par hasard ?
Oui, mais ça ne paraissait pas du tout choquant, parce que c'est un livre d'heures du duc de Berry. ça ne paraissait pas choquant, ni religieusement, puisque dans le fond, c'est quand même le tour des saisons. C'est des scènes délicieuses, des vendanges. C'est ma curiosité qui peut-être... Vous voyez comme j'ai particularisé un petit peu ce que j'y recherchais, mais ce sont des scènes plus vastes quand même.
Dans les livres que gardait ma grand-mère, au bas de l'armoire réservée aux enfants, à hauteur d'enfant, mêlée à la série des romans que la comtesse de Ségur avait rédigés dans les années 1850 dans la forêt de l'Aigle, dans son beau château situé à 23 km de Verneuil, recouvert d'une douce couverture de tissu rose, rosté, vieux rose et filoché, il y avait un petit volume cartonné, carré, en gros carton ivoire, bosselé, léger, fascinant, tout sec. Le livre d'heures du duc de Berry. Les vignettes étaient collées une à une de page en page. Certaines s'étaient dissociées de la page sur laquelle elles auraient dû rester fixées. La fragilité et la minutie de ces miniatures étaient si précieuses, si dénudées, si médusantes, que même enfant, je les touchais avec précaution. Pascal Quignard, Les heures heureuses. En 1979, j'ai écrit « J'espère être lu en 1640 ». Cela devint un titre dans un magazine. En prononçant ces mots, je défendais, comme je pouvais, les 8 tomes des petits traités que j'écrivais alors. Ces morceaux de fiction, ces énigmes étymologiques, ces fragments d'autobiographie, ces bouts d'essais, tout était venu errer autour de cette date, 1640, qui fonde je ne sais quoi en vérité au fond de ma vie, qui ne fonde rien. Cette date, au début, à mes yeux, c'était un souvenir d'école primaire au lycée de garçon, François Ier du Havre, alors totalement en ruine. On apprenait dans des baraques. J'étais enfant de chœur dans la chapelle détruite par l'aviation américaine. Cette date se trouvait dans un résumé, écrit en caractères gras au bas de la page droite du livre d'histoire vert qu'il fallait savoir par cœur pour la semaine suivante. Voici la phrase. « En 1640 furent frappés les premiers louis d'or en France ». Cette date se mit à concentrer et absorber toute rêverie comme un trou noir dans un ciel imaginaire. Aux heures, vous avez écrit et vous y revenez dans ce livre que vous auriez aimé écrire pour l'an 1640. Est-ce qu'il y a une obsession chez vous de ce siècle-là ?
Oui, oui, oui. Il y a une obsession, je pense que c'est lié à la fois à la France et à la fois au Japon. C'est le siècle, si vous voulez, des duels, Louis XIII, des guerres civiles, des guerres religieuses. C'est là où tout s'effondre. Et même en 1740, de même au Japon, c'est le moment des samouraïs, l'effondrement des guerres entre les seigneurs. Et ce côté, comment dire, de guerre civile, de guerre de religion, de liberté sauvage qui s'abat, comment dire, sur... Je suis quand même un enfant de l'après-guerre, vous comprenez, c'est quelque chose qui relaie quelque chose en moi. Oui, ça a marqué dans les livres d'histoire. C'est l'interdiction des duels. L'édit sur les duels de Louis XIII, vous voyez, je crois que c'est 1640 ou 1642, je ne sais plus très très bien. C'est l'arrivée du Louis d'or. C'est avant l'étatisation et la monarchie absolue de Louis XIV. Donc, vous voyez, c'est pré-baroque. Et ça, pour la musique, pour la peinture, Dieu sait que la peinture, oh, c'est magnifique. Vous savez, c'est arrivé avant même le Caravage, qui est quand même la nuit qui tombe, la destruction de la peinture, comme disait Chardin, la nuit qui tombe sur l'univers. C'est un peintre français de Metz, Montsou Desiderio, qui fait ses nuits. Qui ne sont que les ruines de Naples pris dans les flammes, où on voit, alors ça peut être Carthage en ruine, où on voit Saint-Augustin marcher le long du rivage, un peu comme moi, en effet, j'aime bien marcher le long du rivage. Bon. Vous voyez, c'est ce moment, comment dire, où le temps a versé dans une espèce de... dans le noir.
Et les écrivains que vous aimez sont aussi liés à cette période. Vous parlez beaucoup dans ce livre-ci de La Rochefoucauld, mais pas seulement, de Jacques Esprit.
Oui, La Rochefoucauld a une image curieuse dans notre littérature, qui est mêlée très bien, car c'est exact, à Madame de Lafayette. Mais en fait, il y a quelque chose que je trouve très très beau dans cette œuvre très très brève. C'est son incroyance, le fait qu'il choisisse sciemment des causes qui ne servent à rien, qui s'est perdu d'avance. C'est très curieux ce côté un peu. Il le fait par amour absolu pour deux femmes, Duchesse de Longueville puis ensuite Madame de Lafayette. Il cherche des mots. Madame de Sévigné a un magnifique passage quand, au moment de sa mort, où il souffre tellement, comment dire, précisément Madame de Lafayette l'a quitté, ses enfants meurent, tout le monde meurt. Elle le présente comme un visage dont la bouche cherche des mots pour trouver le mot exact pour dire un peu la tristesse qu'il ressent. C'est une très belle image. Et puis c'est un fragmentaire. Après les grands discours, il y a les fragments. De même qu'après 1945, après les grands discours, il y avait les fragments. Et mon œuvre est faite de ça. Alors La Rochefoucauld, c'était pareil. Après les grands discours, après la chrétienté, il y avait les fragments. C'est un baroque. Vous oubliez que j'aime énormément la musique et que des musiciens comme Froberger ou des musiciens, comment dire, comme Monsieur de Sainte-Colombe, sont de très grands musiciens aussi, que j'ai beaucoup aimé faire ressurgir. Je continue à faire des concerts sur ces œuvres-là. Vous savez, je continue, je suis fidèle. Chaque année, je fais deux concerts avec Jordi Savall sur Tous les matins du monde. Je continue. Sur Froberger, je vais en commencer une série de concerts en janvier. Ce sont des musiciens que je trouve très, très grands et qui étaient très peu connus quand même.
Le duc de La Rochefoucauld et la duchesse de Longueville, quand ils étaient adultères, communiquaient à l'aide de livres d'heures de couleurs différentes, comme les voiles blanches ou noires de Tristan et d'Iseux. La voile au loin est blanche, mais elle dit « Noire est la voile ». Et Tristan meurt. Iseux monte la colline, monte l'escalier de la tour, s'étend à ses côtés sur le lit et se laisse mourir. Les âmes, écrit le duc, se désordonnent dans l'amour comme les fleuves se perdent dans la mer. Lui, il manque mourir à Charenton-Saint-Maurice, sous les érables et les vernes sur l'eau. Là, dans cette langue de terre, écrit-il, où se fait la jonction de la rivière de Marne avec la Seine. Sa passion était la passion de la grande passion. L'absence ne diminue que les amours minuscules. Elle augmente, elle surexcite les passions les plus grandes, comme le vent éteint les bougies et allume le feu. Aucune poche ne contient la douleur, ni ne la borne. Sans cesse, elle se rouvre. Il n'y a que des départs, il n'y a que des éclats. Comme les figues d'automne devenues noires crèvent quand on veut les saisir. Comme les grains de raisin muscat craquent soudain et inondent les dents. 501 fragments restent de La Rochefoucauld sur cette langue de terre. C'est votre siècle.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne crois pas que j'ai besoin de siècles. Je ne crois pas. J'aime énormément la romantique. S'il y avait un... C'est plutôt des lieux qui me tentent. Éphèse, par exemple. Bon, en ce moment, M. Erdogan ne me donne pas tellement envie d'aller à Éphèse. Mais Éphèse, là où le premier livre de l'Occident a été écrit, et qui est une merveille, qui est celui d'Héraclite. Là où l'évangile de Saint Jean a été écrit. Là où la Vierge Marie a vécu 25 ans après la mort de son fils dans une petite maison dans les cyprès. J'aurais bien aimé. Vous voyez, c'est plutôt le télescopage de temps à l'intérieur d'un lieu qui me plaît. Si j'avais à définir mon... Mais n'importe quel lieu, le bord de l'océan ou le bord de la nuit, comme je vous le disais, suffit complètement à mon extase.
Est-ce qu'il y a des extases dans ce livre aussi, beaucoup?
Oui, c'est quelque chose de vertical. De plus en plus, je crois qu'en vieillissant, la mémoire se superpose de plus en plus elle-même. En se superposant les souvenirs les uns les autres, c'est une verticalité qui en est. Et dans ce cas-là, c'est un vertige que j'aime énormément, parce qu'il est sédimenté, vous voyez ce que je veux dire? Il n'oublie rien. Il s'élève. C'est pas une tour de Babel qui tombe en ruine, c'est une tour de Babel qui craque en l'air comme une fleur qui lance ses semences.
Vous évoquez les fragments à travers La Rochefoucauld. Évidemment, votre écriture est dans les fragments et en même temps, on a l'impression que chaque fragment, ça peut être un début de roman.
Alors c'est très bienveillant, c'est très juste. Ça me fait plaisir, je veux dire, ce que vous dites. En musique, c'est la même chose. J'aime les attaques. J'aime les départs, j'aime les attaques, j'aime les premiers instants, j'aime l'aube. Toute attaque est merveilleuse, ça me suffit. Bien sûr, après, on peut accomplir. Mais vous savez, c'est pas toujours très utile. Il y a un musicien que j'aime beaucoup, pour plusieurs raisons, qui est Mompou. Mompou, j'ai du mal à prononcer. Dites.
Mompou.
Oui, voilà. Parce que c'est du catalan, c'est compliqué à dire, mais bon. En 1950, ou à peu près après la guerre, après de grandes dépressions nerveuses qu'il a pu faire, il s'est dit, je vais écrire. Des débuts de quelque chose qui se tairait. Musica callada, c'est musique qui va taire quelque chose. C'est pas musique silencieuse, musique qui va taire la ruine de l'Espagne, qui va taire les dépressions nerveuses que j'ai faites, qui va bon. Et je ne le publierai pas. Il le publiera quand même en commençant, il fait 4 cahiers comme ça. En 1959 jusqu'en 1970, j'ai plus très bien les dates, hein, pardonnez-moi pour les dates. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il fait des cahiers, chaque pièce n'est qu'un départ, qu'un début, et qui se tait. Aucune ne fait plus de 2 minutes. Ce sont 4 cahiers de ces petits textes départ qui cherchent à se taire, de musique qui cherche à se taire. Et voilà, alors là c'est pour moi une aspiration que je comprends merveilleusement. C'est dommage qu'il n'y ait pas de piano ici, parce que je vous jouerai un Mompou. Thank you.
Est-ce que parfois il vous vient l'envie de revenir sur des fragments anciens et d'en faire autre chose de plus long?
Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Non. Je ne me relis pas, je n'ai pas ça à l'esprit. Non, vous voyez, comme chaque aube, je lis. En lisant, je note. Des choses que je vis, je les note aussi. Je fais des tournées un petit peu aussi de musique parce que, ou de théâtre ou avec des oiseaux. Parce que j'aime, comment dire, apporter un peu de peur imprévisible à une vie qui sans ça serait complètement passive, totalement prévisible, totalement obsessionnelle. Mais j'essaie de mettre un petit peu d'angoisse dans ma vie quand même.
Et les oiseaux, c'est l'angoisse un peu?
Non, c'est l'imprévisible. Vous arrivez dans le noir et vous prenez, je sais pas, un faucon, une chouette effraie ou un petit corbeau et que vous le posez sur le sol de la Seine dans le noir et qu'il marche dans la Seine. Toute la salle, tout le monde. Et on ne sait pas ce qu'il va faire, moi non plus. Et bien, c'est ça que j'appelle apporter l'imprévisible un tout petit peu à nos arts qui sont très beaux, tous les arts sont très beaux, mais qui sont très, 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 très achevés, préparés, programmés, travaillés. C'est bien aussi d'avoir un tout petit peu de scène imprévisible, un peu sauvage.
dans ce télescopage que vous faites entre les mondes, hein, il y a un tout petit passage où vous évoquez Franz Liszt qui rencontre Fauré. Ce sont deux mondes dont on a l'impression qu'ils sont séparés. Non, il y a eu un moment, cette rencontre où Liszt va jouer une sonate de Fauré. C'est merveilleux.
Oui, assez merveilleux, tout à fait. Il est émerveillé lui aussi. Mais on a découvert récemment que, vous savez, dans la musique de Liszt, il y a tout Fauré. Il adorait Fauré, mais Liszt, c'est quelqu'un d'une curiosité énorme. C'est un musicien, tout à fait. C'est très curieux parce que c'est lui qui a inventé, en gros, comment dire, puissamment, la musique à programme, la musique un peu dramatisée. Et Fauré, c'est tout le contraire. Il détestait qu'on mette des titres à son œuvre, qu'il détestait. Ben, vous parlez de ça. Je vais me permettre de faire une rencontre semblable de celle de Liszt et de Gabriel Fauré. Eh bien, je reviens parce que j'ai tellement de plaisir à prononcer son nom à Mompou. Mompou, à Barcelone, a vu, dans les années 1900, Gabriel Fauré jouer son quintet. Fauré tenait la partie de piano et avait un quatuor avec lui. À Barcelone, bouleversé, ça lui décide de faire de la musique. 7 ans passent, il monte à Paris, au conservatoire que dirigeait Gabriel Fauré. Il prend rendez-vous, il arrive dans la porte de Gabriel Fauré, il n'ose pas toquer à la porte de celui qu'il admire le plus.
C'est Schubert et Beethoven.
Et voilà, vous voyez. Donc, et ça, c'est une histoire vraie. C'est du même genre que, comment dire, que Gabriel Fauré auprès de Liszt. Ouais.
En 1661, Monsieur de Saint-Denis de Saint-Évremond commence son exil. Il est poursuivi pour duel, incroyance, insolence, irrévérence, liberté excessive. Il est embastillé 2 fois. Sur l'ordre du cardinal Mazarin, il est pourchassé par Colbert. Il monte sur un chalut, traverse le bras de mer, s'installe pour 42 ans dans un petit appartement couvert de livres à Londres. Il se fait solitaire à sa manière. Il lit. Entouré de livres, il s'entoure d'animaux, plutôt que d'appartenir à une cour d'hommes. Lire les livres en grec, en latin, en français, apprendre à revivre sa vie dans l'écriture silencieuse, parler en se taisant une langue que le milieu où il séjourne ignore, traduire dans son coin une langue morte dans une toute autre langue qui n'y sonne même pas, ce fut pour lui une même extase. Saint-Évremond invente la forme baroque des petits traités en se souvenant des chapitres arborescents des essais purement littéraires qu'avait inventé Montaigne à la fin de la Renaissance, du temps où il s'attachait à dédialogiser Platon, juste après qu'il se fût attelé à déoratiser son ami la Boétie mort à Germignac. Il abrège encore, il les condense et les émonde. Il les dédie à Madame de Sablé, il les adresse à Pierre-Nicole, il les fait parvenir à La Rochefoucauld. Il correspond jusqu'au dernier jour de sa vie avec La Fontaine. Il nourrit dans sa chambre plus de 60 chats, chiots, chiens, oiseaux. Il passe le siècle. Un homme baptisé à Saint-Denis-le-Gat, dans le Cotentin, au début de janvier 1614, fut inhumé sous une dalle de l'abbaye de Westminster à la fin de l'été 1703. Il mourut en refusant les sacrements. Il y a 2 mots de la fin. Le premier est anachorétique et purement défensif, qu'il n'avait pas besoin pour bien mourir des cérémonies de ce monde. L'autre version est une affirmation intensément toxique. La pensée de l'éternité n'occupera pas le moment le plus inutile de ma vie.
Thank you.
on retourne dans le XVIIe siècle, Monsieur de Saint-Évremond et cet exil à Londres sur lequel vous vous attardez, c'est un grand solitaire lui aussi.
Ah oui, et alors là, il y a quelque chose qui me touche infiniment, parce que moi, je vais pas jusqu'au point où il allait. Je crois qu'il avait 29 animaux chez lui. Moi, j'aime beaucoup les animaux, j'en ai quand même pas 29. Imaginez, il n'a jamais appris, peut-être qu'il est resté 30 ou 40 ans à Londres, jusqu'à sa mort, et je crois qu'il n'a jamais appris l'anglais. Il est vrai qu'on parlait français beaucoup en Angleterre au 7e siècle. Il restait avec ses animaux et traduisait. Il a traduit le Don Quichotte, je crois, de Cervantes. Enfin, il traduisait. Si vous voulez, j'en fais un tout petit peu. Je lui donne un peu d'éclat parce que je ne sais pas très bien si dans votre bibliothèque ou chez un libraire, il y a les œuvres de Saint-Évremond, mais je ne crois pas. Je crois qu'on ne lui pardonne pas d'avoir trahi la France, de s'être exilé plutôt d'aller à la Bastille. Il était à la Bastille, il s'est enfui, puis il s'est suivi comme ça, je ne sais pas.
Mais
oui, il avait raison. Je n'arrive pas à comprendre son irreligiosité, son athéisme très 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 dur, très très précis, refus des prières terminales, refus de la confession à la fin de ses jours, refus de toute religion. Ça n'a pas dû plaire non plus, je ne sais pas. En fait, c'est le passage, si vous voulez, pour moi, littérairement, de cette admirable œuvre pré-fragmentaire, si on peut dire, qui est celle de Montaigne, des Essais de Montaigne, qui cherche à méditer comme ça par petites pulsions, qu'il rajoute sans cesse, mais le livre de Montaigne, finalement, est assez déchiré, parce que tous ces fragments surajoutés n'en font pas quelque chose de très continu. Et c'est une très 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 belle œuvre. Et puis, bien sûr, des fragments, comment dire, de La Rochefoucauld ou de Blaise Pascal par accident. Bon. Mais entre les deux, il y a Saint-Évremond qui a voulu faire les Essais de Montaigne en plus petit, en plus. Et il écrivait une langue admirable. Admirable. Je sais que c'est très difficile à trouver. Moi, j'ai une vieille édition communiste des années 50, début des années 50.
Deux hommes résolurent de ne pas laisser debout une seule vertu. Ils étaient amis. Ils s'appelaient Esprit et La Rochefoucauld. Au siècle suivant, ce furent Laclos et Sade. La naissance de l'administration de la censure d'État ne fit que se couvrir de l'excuse des injures et des outrages lancés à l'encontre du corps temporel, de l'Église et de l'autorité toute neuve de la monarchie. Monsieur de Harlay disait que c'était autant de pelotons contre l'État. Le libertin, le frondeur, la précieuse, le janséniste formaient une même opposition au pouvoir de plus en plus centralisé et soumis à la volonté d'un seul homme qui s'imaginait être devenu le soleil un jour d'hiver de 1653, le 23 février 1653, dans le château encore chétif de Versailles, après une nuit de flambeaux et de danse. Un salon de Paris situé rue de la Bourbe au début des années 1660 les réunit. Le libertin frondeur est François de La Rochefoucauld. La précieuse est Madame de Sablé. Le janséniste est Jacques Esprit. Les trois fonctions sont réparties. L'épée, la femme endeuillée et nettement chamane, servant d'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts au monde. Enfin, l'académicien employé comme un savant technicien, nouveau dédale à qui revient la mise en forme de la machine de guerre. La réforme, la fronde, la préciosité, le libertinage, le jansénisme se ressemblent en ce qu'ils ne se soumettent pas aux codes qui sont accoutumés, ni au genre qui oblige les postures, ni aux statuts qui assujettissent les destins. Esprit, nom magnifique, Jacques Esprit, qui va être très très proche de La Rochefoucauld, mais aussi un personnage de l'ombre, mais qui en même temps est fondamental.
Même chose, je trouve très très injuste qu'il soit oublié. Si vous voulez, c'est un peu, si vous voulez, le Schopenhauer de Nietzsche. C'est celui qui a écrit un livre immense, comment dire, pour détruire toute la morale sénéchienne, toute la morale du monde. Ça fait peut-être 800 pages, alors que l'œuvre de La Rochefoucauld en fait peut-être 40, ou 30 ou 40. Bon, mais l'un avait besoin de l'autre. Ils ont été très très liés, puis ils se sont, comment dire, détestés d'un seul coup, sur le prétexte que l'un et l'autre s'accusait d'avoir fait fuir une parution secrète à Bruxelles, sans doute, ou à Amsterdam, je ne sais pas, qui préfigurait les Maximes. Mais on ne saura jamais si c'est l'un ou l'autre, si c'est une troisième personne qui a fait cette édition pirate. Mais l'édition pirate a brisé une amitié totale.
Première partie d'un entretien avec Pascal Quignard à propos de son livre « Les heures heureuses » publié chez Grasset. Et c'est bien sûr en podcast dès ce soir sur Ovio, une réalisation de Pascal Tison.
Retrouvez Par où dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.